bien là? Ouais. Oui, ça a l'air bien.
Alors, je vais attendre le PowerPoint de la prédication. On vient de vivre un temps de louange, je dirais, assez paisible, tranquille. Et j'arrive, je suis presque désolé d'arriver derrière ça avec une introduction de prédication qui est lourde et pesante, je vous le dis franchement. D'un autre côté, l'évangile, c'est quelque chose qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, donc on va commencer par les ténèbres, et j'espère qu'on repartira d'ici rempli de la lumière du Christ. C'est assez pesant parce que cette semaine, je suis tombé sur un article du journal La Provence au sujet d'une affaire qui est bien d'actualité et qui est, enfin, moi je trouve particulièrement sordide et dramatique, qui est l'affaire dite des viols de Mazan. Alors, bien, je change donc de micro. Vous avez probablement entendu parler de cette affaire. En vrai, il m'en coûte un peu même de rappeler de quoi il s'agit, tellement c'est sordide, mais enfin, voilà, pour si jamais vous n'avez pas entendu parler, il faut bien que je résume un petit peu. Une femme, donc Gisèle Pellicot, a été droguée par son mari pendant des années, de façon à la laisser inconsciente et à pouvoir abuser d'elle et la faire violer par des dizaines d'hommes qui se relayaient sans scrupule à son domicile. Je vous avais dit que ça allait être lourd, voilà, on est dedans. Et les questions que soulève cette affaire sont innombrables, à tel point que celle du consentement, qui semble quand même basique, semble reléguée ici au rang d'anecdote, parce que cette affaire, elle parle de l'état de notre société. Et il me semble que l'article de La Provence, que j'essaye de faire passer, mais j'y arrive pas, est-ce que je vais y arriver? Non, ça vient pas. Est-ce que tu peux faire passer du coup, parce que... Non, je ne vois pas pourquoi. Voilà, là ça passe. Si c'est moi, c'est que ça marche. Bon. Sinon, il faudra qu'on voit ce qui se passe avec la télécommande un jour. Cet article donc, de La Provence, me semble-t-il, en est un bel exemple, parce que cet article titre donc qu'un psychiatre affirme que les 5 accusés qu'il a expertisés ont été manipulés. Et dans le corps de l'article, nous lisons « Appelé à déposer sur ses rapports concernant les 5 mis en cause de cette semaine, le docteur François Amic a dénoté en assurant qu'aucun d'entre eux ne se serait rendu au domicile du couple Pellicot s'ils avaient su en amont que la victime était droguée. Pour l'expert, leur venue réside avant tout dans la capacité de persuasion du principal accusé. » Donc on nous dit là que ces hommes ne seraient pas venus s'ils avaient su qu'elle était droguée. Et je me dis, mais sérieusement, dans quel monde c'est un argument, ça? Parce qu'on ne parle pas d'un homme, là, on parle de 54 hommes identifiés et encore 30 non identifiés. Et surtout, on parle d'hommes qui venaient de la région toute proche, de Mazan même, des villages environnants. Ce qui signifie qu'il ne s'agissait pas d'un taré qui passait par là, il s'agissait de dizaines d'hommes à proximité directe et disposés à s'engager dans l'offre sordide de ce sale type qu'est Dominique Pellicot. Alors, à moins de croire qu'il y a là, dans cette région, un vivier de violeurs comme on n'en rencontre pas ailleurs, il faut se rendre à l'évidence, notre société est quand même sacrément malade. La remarque même du psychiatre l'indique. Tout ce qu'il trouve à dire ici, c'est que s'ils avaient su qu'elle était droguée, ben ils n'y seraient pas allés. Mais dans quel monde on vit, franchement? Parce que dans le monde dans lequel moi je vis, le simple fait de savoir que ce n'est pas elle qui les invite, c'est déjà suffisant pour ne pas y aller. Et même si ça avait été elle, dans le monde dans lequel je vis, le simple fait qu'elle soit mariée, c'est une raison pour ne pas y aller. Et même si elle n'était pas mariée, le simple fait de n'être pas moi son mari, c'est une raison suffisante pour ne pas y aller. Et même si j'étais son mari, elle dort, elle est inconsciente. Ah oui, mais voilà, il ne savait pas qu'elle était droguée. Non, mais sérieux. Alors, je sais que je tiens là un discours assez réactionnaire, mais comment faire autrement? On vit dans un monde qui a tellement perdu le sens de la raison qu'un psychiatre peut dire des accusés qu'il a expertisés qu'ils ont tous été, tenez-vous bien, victimes de la manipulation de Dominique Pellicot. Mais pas du tout. Pas du tout, et je vais vous dire, moi, de quoi ils ont été victimes, si je peux me permettre. Alors, je vais essayer, c'est... Ouais, il faudra qu'on trouve un truc à ça parce que c'est assez pénible. Tu peux passer la diapo parce que j'y arrive pas. Non plus. Ça marche pas là-haut non plus? Si, voilà. Donc ce schéma que j'ai déjà présenté quelques fois. Alors est-ce que ça marche au moins? Oui, voilà. L'histoire est la suivante. Quant à la place de l'Esprit de Dieu qui est là et puis qui est en relation avec notre propre esprit, on laisse s'installer l'esprit du diable ou de l'un de ses sbires, et bien ce qui se passe en résultat, c'est qu'on a de la boue dans le cerveau. L'apôtre Paul décrit cette situation avec les mots suivants en Éphésiens 4, 18. C'est pour vous dire que ce n'est pas juste moi qui emploie des mots forts. Hein. Ils ont de la boue dans le cerveau, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul lui-même quand il dit « Ils ont l'intelligence obscurcie ». Ils ont l'intelligence obscurcie. Vous voyez, c'est obscurcie là. On ne voit rien, on ne comprend rien à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de mettre les chrétiens là sur un piédestal, parce que si on avait des leçons à donner au monde en matière de moralité sexuelle, ça se saurait. Et hélas, c'est l'inverse qui se sait. Ces dernières années, les scandales n'ont pas manqué, et je ne parle pas que de ceux qui ont éclaboussé l'Église catholique. On a eu notre lot aussi chez les protestants et chez les évangéliques. Je ne suis pas non plus en train de dire que tous les non-croyants sont capables des pires horreurs, du coup. Ça serait évidemment absurde d'affirmer ça. Beaucoup ont une éthique solide. Tout ce que je dis, c'est que si nous manquons de vigilance, on est tous susceptibles de tomber dans une idolâtrie coupable qui peut, du coup, nous amener à des actes condamnables. Pourquoi ? Parce que quand dans toute ou partie de ma vie, ça n'est pas l'esprit du Seigneur qui règne, alors c'est un autre esprit qui règne sur mon âme. Et en conséquence, eh bien, ma volonté est affectée, mon intelligence est obscurcie et mes émotions sont mal fichues. Et comme toutes ces choses sont ce qui me met en mouvement, eh bien du coup, je fais n'importe quoi avec mon corps. Mes actes sont mauvais. Et ça, ce n'est pas une question de croyant ou de non-croyant, en fait. Vous pouvez tout à fait avoir une relation avec le Seigneur et malgré tout rendre un culte à Baal. On le lit dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu jaloux et que nous sommes avertis, les marchands du temple, les marchands qui peuvent s'installer dans le temple, eh bien, à nous d'avoir l'hygiène de vie qui consiste à les déloger sans ménagement. Mais avant d'en arriver là, le texte qu'on va aborder aujourd'hui, parce qu'évidemment on va ouvrir notre Bible, nous parle d'un fondement à poser et de ses conséquences. Et je vais prier. Seigneur, vraiment, nous voyons des choses dans le monde qui nous font peur, qui quelque part nous remplissent d'effroi. Et on voudrait bien que ces choses soient de ceux qui ne te connaissent pas. Et qu'on ne soit pas du tout concernés par tout ça. Parce que nous, on est un peuple à part, un peuple saint. Malheureusement, l'actualité nous montre que beaucoup de gens qui se réclament de toi tombent aussi dans ce même genre de travers. On peut espérer que ça soit moins pire. Malheureusement, c'est pas ce qu'on observe toujours. Seigneur, ta parole, elle est lumière et vie. Nous croyons qu'elle fait la différence, qu'elle fait vraiment la différence. Nous osons croire que, d'une manière ou d'une autre, tu nous fais effectivement aller de progrès en progrès. Mais on veut être aussi lucide face au mal qui ronge le monde et au mal qui nous ronge nous-mêmes. Et on veut prendre ta parole au sérieux. Quand tu dis, si ton œil droit te fait tomber, eh bien, prends-le et jette-le au loin, afin que tu ne tombes pas, toi, tout entier dans la géhenne. Seigneur, nous voulons prendre cette parole au sérieux. Je te prie pour que la parole d'aujourd'hui puisse avoir cet effet-là aussi dans nos vies, pour que ça soit une parole qui ne nous brûle pas, mais qui nous purifie, et qui nous amène à te connaître mieux, à nous connaître mieux, et à agir en conséquence. Seigneur, nous en appelons à ton Saint-Esprit pour que tu nous illumines et que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Amen. Alors le texte qu'on va aborder, c'est Colossiens, donc chapitre 2, versets 6 à 15. On est dans la suite de notre étude de cet épître. Et Colossiens, ou plutôt Paul, dit ceci aux Colossiens et à nous par la même occasion. Ainsi, comme vous avez reçu Jésus-Christ le Seigneur, vivez en lui. Enracinez-vous et construisez-vous en lui, affermissez-vous dans la foi conformément à ce qui vous a été enseigné, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie au moyen d'une philosophie trompeuse et vide, selon la tradition des humains, selon les éléments du monde, et non pas selon le Christ. Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous êtes comblés en lui, qui est la tête de tout principat et de toute autorité. En lui, vous avez aussi été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par des mains humaines, par le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous vous êtes aussi réveillés ensemble en lui par la foi de l'action de Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu vivant avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire. Il l'a enlevé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principats et les autorités et les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son triomphe. Ce texte donc qu'on vient de lire commence par « ainsi », ce qui implique que ce que Paul dit là en fait s'appuie sur ce qu'il a dit précédemment, c'est-à-dire sur ce qu'on a vu la dernière fois, la semaine dernière. Paul, avions-nous vu, annonce le Christ à tout le monde, on l'avait dit, pas seulement à quelques initiés, en avertissant tout être humain et en instruisant tout être humain en toute sagesse afin de porter tout être humain à son accomplissement dans le Christ. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est le verset 4 qui nous le dit, juste avant donc ce qu'on vient de lire et à la fin de ce qu'on a lu la semaine dernière du coup, que personne ne vous abuse par de beaux discours, que personne ne vous abuse par des logiques parallèles dans le discours. Et donc dit Paul, comme vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, vivez en lui, enracinez-vous, construisez-vous en lui, affermissez-vous dans la foi conformément à ce qui vous a été enseigné et abondez en actions de grâce. Ces deux premiers versets de notre passage, je les vois comme un chapeau à tout ce qui vient ensuite. Et ce qui vient ensuite, c'est d'abord un fondement ferme à poser dans notre vie. Quand vous lisez ce passage, vous observez qu'il y a un contraste qui est établi tout du long du passage entre ce que le verset 8 appelle une philosophie trompeuse. Je ne sais pas si ça se voit bien de loin, tout au fond, ça ne doit pas être simple. Si. Une philosophie trompeuse et vide. Et puis de l'autre côté, le Christ. Voilà. C'est clair, là, comme ça, non? Tout notre passage, c'est une comparaison entre, on pourrait dire, l'économie du monde et l'économie de Dieu. Mais au milieu, il y a un verset qui semble échapper à cette règle, un verset qui, du coup, me paraît absolument central dans ce passage, et c'est le verset 12. C'est lui qui nous explique ce qui vient fondamentalement nous faire passer d'un royaume à un autre. Et ce verset nous dit ceci, « Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi réveillés ensemble en lui, par la foi de l'action de Dieu qu'il a réveillé d'entre les morts. » Et ça, dans une vie, ça change tout. Ce verset, en fait, il nous parle d'une expérience existentielle, une expérience qui n'est rien de moins qu'une expérience de résurrection. C'est comme ça que ça nous est, dit. Hein. Vous êtes réveillés avec lui, en lui. Voilà, vous êtes unis à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Nous sommes morts avec Christ. Nous avons été ensevelis avec Christ. Nous qui avions le cerveau plein de boue, l'intelligence obscurcie, en plaçant notre foi en Jésus qui est mort pour nos péchés, nous avons été unis à lui dans sa mort. Nous sommes morts avec Christ. Notre volonté entachée par le péché, notre intelligence obscurcie, nos émotions mal fichues, tout ça est mort avec Christ quand nous l'avons reconnu pour ce qu'il est, notre Seigneur et notre Sauveur. Et parce que nous sommes morts unis à lui, unis à Christ, eh bien nous avons également été réveillés d'entre les morts avec lui à une vie nouvelle. Jésus a pris sur lui notre péché, il nous a revêtus de sa justice. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et c'est ce qu'il nous est dit en Éphésiens 2, il nous a rendus vivants avec le Christ. Nous étions morts, nous sommes maintenant vivants. C'est une naissance spirituelle, une naissance qui vient d'en haut, qui fait de nous une nouvelle créature dont la volonté, l'intelligence et les émotions se voient renouvelées par l'Esprit de Dieu. Parce que notre propre esprit a repris vie. Parce que, ça y est, nous sommes à nouveau en lien avec l'Esprit de Dieu. Parce que, ça y est, nous pouvons chasser les idoles de notre vie qui viennent nous obscurcir l'intelligence. Et c'est cette expérience-là que nous manifestons par le baptême. Et c'est ça que nous sommes appelés à vivre et à nous approprier par la foi tout au long de notre vie chrétienne. Parce que si ce verset pose un fondement, qui n'est rien de moins que celui d'une nouvelle identité en Christ, bien sûr, ça a des conséquences concrètes pour notre vie. Il est toujours bon de rappeler que Paul s'adresse ici à des chrétiens. C'est à des chrétiens qu'il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie ». C'est à des chrétiens qu'il s'adresse au verset 8. Et c'est pour ça qu'on fait bien, je crois, de ne pas regarder les non-croyants avec trop de condescendance. Qui s'étonne de la chute d'un abbé Pierre n'a pas encore saisi la profondeur et la gravité du péché dans le cœur humain. Qui s'exonère à bon compte en disant que l'abbé Pierre, sans doute, n'était pas chrétien, s'illusionne très probablement quant à l'état de son propre cœur. Et c'est d'ailleurs là qu'est le plus grand danger, et Paul nous avertit encore, hein, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est ce qu'il dit en 1 Corinthiens 10, verset 12. Et pour autant, en Christ, nous sommes une nouvelle créature. À la tradition des humains, verset 8, qui puise donc sa source dans des cœurs tortueux, Paul oppose la plénitude de Dieu qui se trouve en Christ. Aux éléments du monde, toujours verset 8, c'est-à-dire tout ce qui est dans la main de Satan et qui nous maintient captifs, Paul oppose le dépouillement des principats et des autorités qui sont sous l'autorité du Christ, versets 10 et 15. En Christ, nous ne sommes plus sous la coupe de ces entités mauvaises. À la circoncision du corps, c'est-à-dire à cet acte extérieur qui est issu de la volonté humaine, Paul oppose la circoncision du Christ au verset 11, c'est-à-dire une circoncision du cœur, un acte intérieur qui est opéré par l'Esprit Saint, qui nous donne un cœur de chair à la place de notre cœur de pierre. En Christ, notre purification n'est pas extérieure, à force d'œuvres bonnes, on sait que ça c'est vain, elle est intérieure et c'est une grâce qui trouve sa source dans la mort de Jésus à la croix, dans son sang versé pour nous. Et donc, à la mort, comme conséquence de nos fautes, verset 13, Paul oppose la vie abondante qui se trouve en Christ comme conséquence de la pure grâce de Dieu, versets 13 et 14. Vous voyez ce contraste ? On le voit peut-être mieux que quand on lit notre Bible, mais ça paraît assez clair ici. Il met en vis-à-vis ce qui était constitutif du vieil homme, ici, cet être que nous avons été mais qui est mort uni au Christ par le baptême, avec ce qui est constitutif de la nouvelle créature qui est née de l'action de l'Esprit Saint au moment de notre conversion. Et il y a une opposition claire entre les deux. Et je vais arriver au mot de la fin. La question fondamentale, en fait, c'est qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Est-ce que nous sommes cette créature nouvelle qui nous est décrite ici à droite ? Ou est-ce que nous sommes le vieil homme, là, décrit à gauche ? Et je dirais à nouveau, attention, ne croyez pas que j'introduis là un appel à la conversion. Voyez, vous êtes là, mais nous, on est tous là et c'est super. Donc venez à droite, là. Je fais comme Paul, en fait. Je m'adresse aux chrétiens. Prenez garde, c'est ce qu'il dit, parce qu'on ne vous trompe pas. Et pour les chrétiens, en principe, la question devrait être rhétorique. Si nous sommes en Christ, ce qui est écrit à droite décrit la réalité de ce que nous sommes pleinement aujourd'hui. Mais prenons garde, que personne ne fasse de nous sa proie, dit Paul. Alors, est-ce que c'est bien ce que nous croyons ? Est-ce que c'est bien ce que nous croyons ? Si je crois qu'il suffit d'ignorer qu'une femme a été droguée pour légitimement m'octroyer tous les droits sur elle, quand bien même elle est inconsciente, si c'est vraiment là ce que je crois, alors qu'est-ce qui me retiendra ? Mais même en étant chrétien et en ayant acquis en principe un certain nombre de valeurs, et là on est vraiment au ras des pâquerettes au niveau des valeurs, si m'étant approché d'un peu trop près d'une philosophie trompeuse et vide, je crois par exemple que en fait ma vie n'a aucun sens, alors ma vie n'aura aucun sens, quand bien même elle en a un qui m'est donné par le Christ. Si je crois que Jésus, oui, il est mort à la croix, mais moi je suis toujours sous la coupe de Satan, alors je vais vivre sous la coupe de Satan, quand bien même Jésus m'a pleinement libéré. Si je crois que Dieu ne m'accueille qu'à la mesure de mes bonnes actions, alors je vais passer ma vie à chercher l'approbation de Dieu et j'irai de déception en déception parce qu'évidemment, je ne suis pas à la hauteur de sa sainteté. Quand bien même lui me voit comme un saint du fait des mérites de Christ, quand bien même lui me voit parfaitement justifié et parfaitement accueilli dans son royaume, eh bien moi, je peux vivre éternellement déçu de ce que je suis. Si je crois au fond de moi-même que ce que j'ai fait est impardonnable, alors je vais vivre tous les jours de ma vie comme un condamné, quand bien même il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas si évident, en vrai, de s'approprier les vérités de ce que nous sommes aujourd'hui en Christ. On peut sans doute percevoir dans notre propre vie quelques failles, me semble-t-il. Mais c'est parce qu'il en est ainsi que dans toutes ses lettres, Paul pose d'abord le fondement de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Dieu dit de nous, et ensuite seulement, il parle de la manière dont ça vient changer notre comportement. Ça, on le voit particulièrement dans l'Épître aux Éphésiens, par exemple. Les trois premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens ne parlent que de ce que Dieu a fait, de qui nous sommes en Dieu. Et puis après, les trois chapitres suivants nous expliquent qu'est-ce qui arrive en conséquence de cette identité, qu'est-ce qui devrait être vécu dans notre vie en conséquence de cette identité qui est la nôtre, parce que nous sommes une nouvelle créature. Et c'est dans ce sens-là que ça se passe. La question n'est pas d'abord de savoir ce que nous avons à faire. Parfois, c'est ce qu'on cherche dans la Bible. On cherche ce que Dieu nous demande de faire. Et on se dit, maintenant, il faut que je fasse ça. Mais on nous demande surtout d'abord de savoir ce que nous avons à croire. Qu'est-ce que je crois ? Si nous mettons le faire avant le croire, alors on ne va pas arriver à vivre en chrétien. On va jouer au chrétien. On va essayer de se conformer à ce qu'un chrétien est supposé être. On va soigner l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, on a toujours de la boue dans le cerveau. Et ça ne marche pas. ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est de considérer ce que Dieu dit de la nouvelle créature que nous sommes, de nous ancrer dans cette nouvelle identité qui est la nôtre, parce que Dieu affirme que c'est notre identité, et de vivre en conséquence et de laisser Dieu renouveler nos pensées et tout notre être intérieur. Et alors seulement, nous commencerons à bien agir, non pas en dépit de notre péché, mais en vertu de notre sainteté. Alors, en guise d'application pour ce message, je dirais que c'est simple, je crois que je l'ai déjà dit en fait d'ailleurs, hein. Regardez ce que Dieu dit de vous, méditez ce que Dieu dit de vous, et décidez de croire que sa parole est plus fiable que toute autre parole. Quand on médite ce que Dieu dit de nous, il y a des objections qui nous viennent en tête. C'est l'objection de l'incrédulité. Il y a des moments où Dieu dit des choses de nous et on dit « ouais, mais non, pas moi, les autres peut-être, mais pas moi ». Décidez de croire que sa parole est plus fiable que toute autre parole, y compris la vôtre, et vivez en conséquence non pas de ce que la Bible vous dit de faire, mais en conséquence de cette identité nouvelle en Christ. Et là, vous verrez du changement. Je vais prier. Seigneur, nous voulons reconnaître devant toi que nous avons besoin de transformation intérieure. Nous voyons parfois en nous des choses qui sont laides, des actions qui sont laides, des pensées qui sont laides. Et bien souvent, nous crispons parce que nous savons qu'un bon chrétien ne doit pas penser comme ça, ne doit pas agir comme ça. Seigneur, nous savons que ce n'est pas par nos œuvres que nous arriverons à avancer, en fait, avec toi. C'est parce que tu as fait toi, parce que tu as fait, en envoyant ton Fils, mourir pour nous à la croix, déjà cette grande libération qui est là, pour nous, le pardon de nos péchés, Seigneur. Et puis, il y a cette vie abondante que tu nous offres, à la mesure de la façon dont on te laisse œuvrer en nous. Seigneur, ta parole est la vérité. Et nous avons besoin de croire dans la vérité de ta parole. Et c'est souvent là que le bât blesse. Parce que nous, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous entendons une autre voix. Une autre voix, parfois même simultanément à ta propre parole, quand nous la lisons, nous entendons une autre voix qui vient s'opposer, qui vient dire autre chose que ce que toi tu dis de nous, de qui nous sommes, de ce que tu as fait pour nous. Cette autre voix, nous la faisons taire maintenant. Au nom de Jésus, nous faisons taire cette autre voix, parce qu'elle n'a aucun droit sur nos vies. Nous t'appartenons. Nous te reconnaissons comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Et puisque tu es notre Seigneur, nous écoutons ta parole. Nous nous accrochons à ta parole. Et nous vivons en fonction de ta parole, indépendamment de ce que l'ennemi vient nous susurrer à l'oreille, indépendamment de ce que nous-mêmes nous nous susurrons parfois à l'oreille du fait de notre propre péché, pour nous justifier, pour justifier ce que nous faisons. Seigneur, nous ne voulons plus de ça dans nos vies, nous voulons nous accrocher à toi, nous voulons faire partie de ceux qui tiennent debout, non pas parce qu'ils se croient debout, mais parce que toi, tu les maintiens debout par ta parole. Seigneur, que vraiment que ta parole soit notre pain quotidien, cette parole qui vient nous nourrir, qui vient nous construire, qui vient nous édifier, cette parole qui est lumière et vie, et à laquelle nous voulons nous accrocher en dépit de toutes les ombres qui essayent de venir l'étouffer. Nous ne voulons laisser aucun droit à ces ombres. Nous ne laissons aucun droit à ces ombres. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.